Souvent, il m'arrive de venir dans cette pièce et de regarder la mer. Depuis ce fauteuil et en louvoyant entre les immeubles autour, je n'ai pas grand-peine à la voir. Cette vue est à peu près tout ce qui me reste. En passant mes journées dans cette pièce et en regardant bêtement la mer à travers la fenêtre, j'ai la certitude d'avoir existé. Ici, je me dis que j'ai peut-être eu un passé, une histoire, une vie, et c'est déjà beaucoup. Pendant que cette ville en dessous change radicalement de visage et que rien ne semble ralentir sa refonte complète, je pense détenir ici, parmi ces murs toujours inchangés et immobiles, comme insensible à l'écoulement stupide et aveugle du temps, la preuve irréfutable de mon passage. Voilà pourquoi je monte aussi souvent que possible m'asseoir sur ce fauteuil et pense à ces années-là et me dis que tant que ces murs résisteront, le temps n'aura absolument aucune espèce d'importance. Quoique... En bas, il n'y a pas un secteur de la ville, pas un immeuble, pas une rue, rien qui résiste au désastre permanent de la reconstruction. De nouveaux bâtiments se multiplient à chaque coin de rue comme des métastases délirantes et furieuses, c'est à peine croyable. Après tous ces changements auxquels aucune fin ne semble envisagée, comment admettre qu'il s'agit de la même ville ? Je ne reconnais plus rien et plus personne ne me reconnaît. Je traverse la ville en fantôme, complètement transparent. Je n'ai pourtant jamais quitté cet endroit, tout cela est très étrange. Se sentir comme ça de trop et caduque dans un décor sans cesse modifié de fond en comble. Il n'y a qu'en bas où je me sens de trop, ici rien de tel, je me sens chez moi. De cet endroit où je peux encore admirer la respiration de la mer, je surplombe une ville qui se construit un avenir sans moi. Je suis pourtant au centre. Géographiquement, je sais me situer au milieu de l'effervescence et pourtant, j'ai la certitude d'évoluer quelque part à côté. Je sais aussi ce qu'ils doivent se dire. Ils doivent se dire qu'ils le gardent, son taudis en ruine. Ils doivent se dire qu'ils le gardent, mais surtout qu'ils nous foutent la paix. Dans cette pièce, tout est jaune et fissuré et vert. Je pense me déplacer dans le seul espace vert de la ville. Ailleurs, il n'y a plus rien. Souvent, je me dis que ces végétations qui séjournent dans les embrasures de ce mur fissuré n'auraient jamais survécu dehors. Dehors, on se serait appliqué à les déraciner, à les étouffer brutalement dans du béton et qu'on n'en parle plus, comme le reste. Je ne sais pas pourquoi ma jambe droite se met à trembler dès que je réfléchis à toutes ces années. Je n'avais jamais eu de tic auparavant. À l'époque où cette pièce n'avait rien d'exceptionnel et où elle n'était en définitive qu'une réplique miniature de toute la ville. Le reflet d'une vie même. La végétation séjournait un peu partout. À l'extrémité des trottoirs, au milieu des pavés. Et ce n'est que depuis que je vis dans mes souvenirs et parmi ces murs jaunes fissurés que je suis obligé de maîtriser les mouvements hystériques de ma mâchoire. Pour me calmer, je prends souvent ce chapelet dans ma main à laquelle il manque l'index et laisse le reste de mes doigts longuement palper ses grains. Je suis capable de passer des heures et des heures entières assis dans ce fauteuil à fixer un point quelconque de la pièce. N'importe lequel. Je n'ai toujours pas modifié la disposition des objets encore éparpillés sur le sol. Je n'en ressens pas le besoin. Je laisse scrupuleusement tout en l'état et rassemble de temps à autre mes forces pour reconstituer mentalement la course de tous ces objets face à moi. Comment sont-ils venus mourir là autour de mon fauteuil ? Qui les a abandonnés et que sont leurs anciens propriétaires devenus ? Je pourrais émettre quelques hypothèses séduisantes, et je pourrais, sans trop d'efforts, imaginer une infinité de paternités possibles. mais ce serait inutile. Il y a des années que personne ne les réclame, que personne ne se soucie de leur sort. À quoi bon rassembler mes forces pour retrouver leur propriétaire? Même mentalement. Peut-être qu'ils sont morts. Non. Ils sont morts. Il ne me reste que très peu de force. Pourquoi s'est-elle adressée à moi? S'agissait-il vraiment de son fils? Je ne sais si mes séjours fréquents dans ce lieu me sont d'un quelconque soulagement. Lorsque je monte ici avec un petit sac de provisions pour la journée et un paquet de cigarettes américaines, je me dis pourtant que je vais enfin échapper au tumulte de la ville, et pourquoi pas recouvrer, parmi ces murs jaunes et cette végétation sauvage, un peu de ma plénitude antérieure. Je me le dis toujours, et c'est en partie vrai. Jamais je ne me sens aussi apaisé qu'en regardant la mer, sa continuité, ses habitudes, la monotonie de ses mouvements, depuis mon fauteuil. Mais il y a ces tics et ma mâchoire hystérique. Il y a ces moments de désorganisation soudaine où mes os ne répondent plus de rien. Ces moments où ma jambe droite, tremblante, en panique, traquée, s'arrache du reste de mon corps. À l'exception de ceux qui sont internés dans des asiles, à peu près tous mes amis sont morts ou en exil. Je suis le seul à qui on a bien voulu foutre la paix. À leurs yeux, je ne dois plus représenter aucune espèce de menace. Je suis même tout à fait inoffensif. Une sorte de bête domestiquée, quelqu'un à qui on aurait supprimé les couilles. Mais tout de même, dans ma tête, quelque chose me dit, bien plus m'assure, que leur indulgence ne durera pas, que c'est un piège sournois, qu'ils finiront bien par s'en lasser, que tôt ou tard, il n'y a pas de raison. Je ne suis pas si naïf. Couille ou pas, ils viendront me chercher. Je ne rends visite à personne. Je ne supporterai pas de les voir tous si amoindris et méconnaissables. On les traite aux électrochocs et on les gave de médicaments. De temps en temps, dans une sorte d'élan de sympathie inexplicable, quand il fait beau, on leur tend des crayons de couleur et des feuilles blanches pour qu'ils y consignent leurs angoisses. Au terme de l'exercice, ils finissent toujours par manger leur fourniture. Tous mes amis internés ont définitivement perdu la tête et sont retournés en enfance. Une enfance abrutie et sans avenir. Ils ne sortiront jamais de là où ils sont, c'est acquis. Que viendraient-ils faire dehors? Constater que leur monde a disparu et que leur vie ne se réduise comme la mienne qu'à un fatras de souvenirs insaisissables? J'ai vu des films sur de vieux prisonniers qui ne supportent pas leur nouveau régime de liberté. Une fois dehors, ils perdent effectivement la boule et récidivent de leur mieux pour qu'on les rapatrie vite fait en prison. Ce ne sont pas que des films, je ne suis pas dupe. J'aurais peut-être dû moi aussi me faire interner, pourquoi pas? On se serait gentiment occupé de moi, et je me serais étendu tête et corps assommé en attendant ma mort. Mais ce n'est pas une solution. Je ne sais pas pourquoi je le pense, mais ce n'est pas une solution. J'ai toujours aimé Gustav Mahler. Je ne connais pourtant rien à la grande musique. Même à l'époque où je travaillais dans cette pièce sans électricité, je me débrouillais pour écouter, comme l'indiquait la pochette, la 5e symphonie de Mahler. Et plus particulièrement l'adagio, très lent, en fa majeur. Cette manière caverneuse de mettre l'effondrement en musique m'obsédait déjà à l'époque et m'obsède encore aujourd'hui. Mes camarades ne comprenaient évidemment pas mon goût. ma sensibilité de petit poète, ma mélomanie de merde pour la grande musique. Le plus souvent, il me disait que travailler en écoutant la 5e symphonie de Mahler pouvait, à raison, perturber les gens qu'on emmenait ici. Il me disait « Éteins-nous cette musique de merde de petit poète, tu es en malade et nous avec. » Il suffit que j'écoute aujourd'hui, un peu plus d'une décennie plus tard, cet adagio très lent de Mahler depuis mon fauteuil, comme je le fais à l'instant, pour qu'aussitôt des dizaines de visages défilent et défilent sans interruption dans ma tête. Des gens que nous avions emmenés ici, que j'ai connus dans des postures exceptionnelles, en écoutant Mahler, mais des gens dont le visage, autrefois si unique, autrefois si expressif et familier, devient au fil des années de plus en plus abstrait et indistinct. En réalité, il est impossible d'isoler le moindre visage. C'est un paquet d'images indissociables dans ma tête. Un tas. Pourquoi ces visages m'échappent-ils maintenant? Est-ce leur nombre considérable? Le temps qui passe? L'écoute trop régulière de Mahler? En traversant tôt ce matin cette ville atrocement transfigurée, sur le chemin de moins en moins familier qui me conduit vers cet immeuble, vers cette pièce où quelques murs chancelants témoignent encore de mon existence à l'abri de la menace sérieuse qui partout ailleurs. Pourquoi m'avait-elle harangué? Moi parmi tant d'autres. Ce matin, j'ai croisé une vieille dame habillée en noir, traînant des pieds et la tête recouverte d'une dentelle noire. Elle tient un mouchoir blanc, ou est-ce du bleu clair, qu'elle agite dès que ses yeux aperçoivent ma silhouette. Elle s'adresse à moi. Pourquoi moi? Va savoir pourquoi moi. Ses gémissements lancinants sont épouvantables. Depuis l'effondrement, je ne suis pourtant qu'un fantôme. Je déambule incognito et personne ne me reconnaît. Je suis transparent. Son visage est plissé. Des nappes de rides qui s'étirent vers le sol. Dans l'autre main, elle tient la photographie d'un jeune homme dont je ne distingue pas les traits. Elle se rapproche et hurle. Elle me hurle « Où est mon fils ?» Elle me hurle « Qu'avez-vous fait de mon fils ?» Elle me hurle bien d'autres choses encore, mais je m'éloigne. Mais je m'éloigne et remonte 4 à 4 les escaliers en ruine de cet immeuble et m'installe dans ce fauteuil pour regarder la mer. Il est, je crois, maintenant 10h du matin et le soleil commence à peine de se déployer au-dessus des immeubles. En bas, la ville se réveille progressivement avec le bruit des chantiers et des voitures et je suis à la fenêtre. Un roulement de klaxons irrégulier parasite l'harmonie sonore de ma pièce. En jetant un coup d'œil à mon poste, je me dis que je dois économiser mes piles à moitié vides. Bientôt, je ne pourrai plus écouter l'adagio très lent de Mahler. Et s'en sera fini de moi. Un vieux marchand de légumes itinérant hurle ses produits frais à travers un mégaphone et se fait aussitôt rappeler à l'ordre par un flic en lunettes noires. L'ordre. Remballe tes sales légumes et fous le camp. pour l'avoir plus ou moins connu avant qu'il ne porte l'uniforme, je ne suis pas surpris de le voir sortir brutalement sa matraque. À défaut de me faire interner ou de m'exiler comme la plupart de mes amis, j'aurais pu rejoindre les forces de police. Oui, pourquoi pas, après tout. Rejoindre la police et gagner chichement ma vie en attendant ma mort. C'était une perspective honnête, mais il est trop tard maintenant. Maintenant, je suis fatigué. Je suis beaucoup trop fatigué pour humilier un vieux marchand de légumes dans la rue. L'ordre. Tu la fermes, je te dis. L'ordre. J'ai dit tu la fermes et tu dégages. Aurais-je eu la force, moi aussi, d'assommer un de ces vieux marchands récalcitrants avec une matraque, de lui mettre un coup de pied dans le ventre, au cul, une fois à terre? Les gens ne parlent plus de ce qui s'est passé avant. À une époque pas si lointaine, ils éprouvaient encore le besoin d'en parler, de mettre des mots sur une souffrance indicible qui les avait confinés dans un état de prostration longtemps indépassable. Ils ont bien changé. Maintenant, ils veulent le rétablissement de ce qu'ils appellent triomphalement la santé. Alors que pour ma part, et dès mes premières années d'adolescence, ça devait être vers mes 14-15 ans, l'âge où j'ai cessé d'être un puceau, j'ai toujours évolué dans un monde malade. Depuis mon fauteuil délabré et en scrutant une poupée rousse gisant sur le sol, la même depuis des années, je me dis qu'à l'instant même où ils se sont laissés aller à l'insouciance de l'après, je suis entré à mon tour dans la prostration. Une prostration caverneuse, fondamentale, et qui me mange l'estomac, qui enserre toutes mes pensées, qui moule ma tête dans de la peur. En se relevant de toutes ces années de souffrance, ils ont bétonné un monde dans lequel j'incarne de toute évidence la maladie honteuse, le chancre vénérien. Un monde implacable dans lequel je suis acculé, sur le dos, comme un cafard. Il faut que je m'y fasse une bonne fois pour toutes. Dehors, je ne suis plus rien, et ici, dans mon fauteuil, je n'en finis pas d'agoniser. Mais il m'est impossible de l'accepter. Comment accepter sa propre mort, sa déchéance programmée? Souvent, lorsque je vois l'imminence de ma mort dans leurs yeux insouciants, à peu près tous les jours, je rêve à l'avènement d'une nuit de déluge pur et sans lendemain, au cours de laquelle tout s'écroulerait infiniment, en cascade, sans interruption, jusqu'à ce que rien de cette abominable santé ne subsiste. J'ai conscience de revivre la même journée depuis des mois. J'arrive à l'aube sur mon ancien lieu de travail en ruine et n'en repars que très tard dans la nuit. Cette régularité, je le sais, morne et inutile, est un des rares liens que je maintiens avec ma vie d'avant. Je ne vois pas pourquoi ni comment je pourrais m'en défaire. Il n'y a presque plus que ce trajet et je ne suis plus très ambitieux. Jusqu'à quand tiendrai-je le coup ? Et que vous laissez cette affreuse femme noire. Le martèlement. Le soleil. À présent, la pièce est partiellement quadrillée de rayons de soleil et à quelques encablures de l'immeuble, derrière une station essence laissée à l'abandon depuis des années, des marteaux-piqueurs. Combien sont-ils? 3 4 Combien? D'épaisse bruyamment le bitume. La rumeur d'en bas commence de grimper jusqu'à ma fenêtre. Un lierre hostile. Sans doute estime-t-il qu'il est temps que je m'en aille, que je vide les lieux et que je m'enterre quelque part. Qui était ce jeune homme dont elle tenait la photographie?
Et que me voulait cette affreuse femme en noir?
Pourquoi me l'attend-elle tous les matins? Je ne compte plus le nombre de cigarettes que j'ai fumées depuis mon arrivée. J'entends simplement siffler mes poumons. Je n'en ai plus pour très longtemps, de toute façon. À qui appartient cette poupée, cette horrible poupée rousse sur le sol ? Au lieu d'insister, de me le demander tous les jours, je devrais sans doute m'en débarrasser. Ne plus m'apesantir bêtement, me poser la question de savoir. Plus d'histoires inutiles. Les histoires ne me servent à rien. Une bonne fois pour toutes. La prendre par les cheveux et puis la balancer par la fenêtre. La prendre et puis la balancer. La fenêtre. Sans hésitation. C'est dans mes cordes. Étonnamment, ils m'ont ignoré jusqu'à aujourd'hui, mais ma tanière ne résistera pas. Je sais qu'elle ne tiendra pas bien longtemps. Un jour ou l'autre, ils l'enfouiront sous une horrible maison de poupées et je n'aurai plus qu'à rejoindre les forces de police. Ou l'asile. Plus de malheur, plus de refuge. Tout le dehors dégoulinera alors sur moi et je m'engloutirai sous terre de la boue plein la bouche. Je ne suis pas si naïf. En déplaçant péniblement fauteuil vers la pénombre, à l'abri de serrées de lumière poussiéreuse qui envahissent une partie de ma pièce d'un blanc et
je me suis dit,
pendant que ma jambe droite tremblait sous la pression de l'effort, sans pouvoir me l'expliquer comme à mon habitude, je me suis dit, plus de malheur,
que me suis-je dit ?
La boue plein la bouche sous terre,
la boue, le fauteuil,
le blanc éclatant, la jambe droite,
le fauteuil, le blanc éclatant, la jambe droite.
Je me suis dit que la femme en noir de ce matin me dénoncera à la foule et que je succomberai en trahison ouverte à leur lame aiguisée. Non, ce n'est pas ça. En déplaçant mon fauteuil, je me suis exactement dit que la mère de biais ne suffisait pas, et qu'un jour ou l'autre, dans les semaines à venir, pourquoi pas demain, il faudra bien que je consulte un nouveau médecin. C'est plus probable. Lui demander, ma jambe droite, ma mâchoire, mes tics, que faire ? Les médecins ne répondent jamais à ce genre de questions. Ils laissent pourrir. Ils tapotent le cuir de leur bureau et observent la plaie avec lassitude. Chaque fois que j'ai consulté un médecin, j'ai eu droit au même traitement, à la même exaspération. Je rentre dans des cliniques. Au passage, je remarque des têtes absentes qui errent dans des couloirs. Ai-je cette tête-là, cette absence, ce teint bleu ? Et m'entends dire le même baratin. Question. Ma jambe droite, ma mâchoire, mes tics, que faire ? Supplication. Que faire, docteur, que faire ? Réponse 1. Individu malade, c'est-à-dire mentalement complètement malade. Réponse 2. Mais individu désormais inoffensif. Réponse 3. Je suis à la porte. Séjour en hôpital ou faites ce que vous voulez, au revoir. Je ne veux pas qu'on me séjourne dans un asile en hôpital, je connais la chanson. La chanson. Corps en loc, en compote et hébétude éternelle dans ma tête. Plutôt mourir que chanter. C'est ce que je me suis dit. Je suis dans ma pièce, dans ma petite pénombre et ne peux que regretter toutes ces années où nous étions rois. Nous étions quelques-uns à survivre, à nous épanouir même, dans un monde malade. Nous partions dès la tombée de la nuit pour des rondes qui souvent ne s'achevaient qu'aux aurores, parmi les ruines et sous des averses ininterrompues, embarquant dans nos voitures déglinguées des passants choisis au hasard. À l'époque, j'avais 19-20 ans, j'avais une vie. Des visages défilés devant mes yeux s'offraient à mes mains. des postures et des expressions exceptionnelles, en écoutant malheur de surcroît. Qu'est devenu le souvenir autrefois si précis, autrefois si prégnant de ces visages ? Nous roulions à vive allure et dans le dédale d'une ville sans lumière, en rond pour vite nous étourdir, nous et nos passagers désignés au hasard. Nos nuits de travail ne prenaient fin qu'au petit matin, et nous longions ensuite paisiblement le littoral avant de céder au sommeil. Personne ne parlait, tout le monde ou presque jouissait du silence. Qui se souvient de nous aujourd'hui, de nos rondes, de nos passagers ? Autrefois j'étais roi et ne suis maintenant qu'un fantôme. Pour l'exemple, ils ont pendu un homme sur la place publique à midi. Un homme sans importance, m'avait dit mon poste de radio. Un voleur de petite envergure, à moins que rien. Vers midi, la masse affluait de partout pour assister à l'événement. Le temps s'était pour une fois arrêté et les chantiers exceptionnellement en repos. De ma tanière, je pouvais contempler l'ensemble du dispositif. L'échafaud monumental, le sac sur la tête, l'urine le long des jambes, les préposés, l'arrivée des notables et des anonymes. Toute la ville s'était attroupée là, extatique et ivre de se montrer, sur cette place principale, au milieu d'une ceinture d'immeubles flambant neufs. Endimanché pour la circonstance, tout le monde, jeunes, vieux, femmes, enfants, portait du lin blanc. Pendant que ma mâchoire me paralysait les muscles du visage et que mon chapelet me tombait des mains, je les ai vus attendre le début des réjouissances en fanfaronnant. Ils étaient hilares. À peine la pendaison dardard expédiée qu'une dame en robe blanche occupait la scène. Une diva populaire d'autrefois, d'avant ma naissance. Pourquoi s'était-elle tue pendant toute ma jeunesse, mes années où j'étais roi ? Plein d'un ravissement inentamable, ils ont dans la foulée applaudi le bon déroulement de la pendaison et le récital de chant qui l'a suivi. C'était hier, ou il y a une semaine, je crois. Mais qu'importe. Qu'importe. Je suis assis dans mon fauteuil délabré et écoute à nouveau malheur. Mais pour combien de temps encore ? Je ne dors presque plus. Des ombres graciles se propagent comme des taches d'encre devant mes yeux. Elles se déplient en ondulant le long du mur et en colonisent petit à petit la surface éclairée. Au centre du canevas, je devine des formes embryonnaires, un effroyable fourmillement de figures inachevées, à peu près les mêmes depuis que je monte me réfugier dans ces ruines. Après tout, je ne sais pas, je ne sais rien. Il y a des mois, mais des mois que je n'ai plus dormi. Dans ma banlieue ouest, partout dans cette ville, mon corps sursaute pile au moment de sombrer et toujours m'enjoint de ne pas dormir. Je n'y ai pas droit. Quel que soit mon état de fatigue, je n'ai pas le droit de m'assoupir. Pas une minute. Jamais. Où est passé mon chat ? Mon siamois borgné craintif. Hier encore, il déambulait dans ma pièce. Souvent, il traînait son flanc contre les murs fissurés de mon refuge, puis s'affalait longuement sur mes genoux. Une pellicule visqueuse et jaunâtre recouvrait son œil droit. Probablement du pu ou quelque chose de ce genre. Je ne suis pas vétérinaire. Il m'était fidèle. Je l'avais recueilli il y a quelques jours, voire plus. Il ne pouvait pas aller bien loin. Je l'avais soigné. Je ne sais plus où il est. studio, il est 12h37. La ville continue de s'agiter et un halo de fumée toxique. Un mélange d'huile et de caoutchouc brûlé émane de son artère principale. Je n'en respire presque plus. Main derrière le dos, les narines obstruées, je fais refais les 100 pas dans ma pièce et me dis sans cesse que la fureur d'en bas n'existe pas et que l'hostilité est dans ma tête malade et que rien n'a changé. Aucune raison pour que du jour au lendemain je sois mort. Que ma vie, mon passé soient anéantis. Tout cela est un mauvais rêve, un canular. C'est ça, un canular. Il n'y a ni prairie immense, ni maison de poupée, ni femme en noir. Ce soir, j'attendrai comme d'habitude mes amis pour une longue ronde de nuit. Nous embarquerons des passagers choisis au hasard et nous les emmènerons les yeux bandés dans cette pièce. Il n'y aura aucune complication, tout se déroulera comme dans du beurre. Après une période d'adaptation fastidieuse, mais on ne peut plus normal, ils assimileront rapidement nos méthodes et ils se montreront très coopératifs. Une lettre à la poste. Ce soir, nous irons chasser la femelle et nous nous déchargerons euphoriques dans des jeunes filles dont les cris décupleront notre détermination. Fiers du devoir accompli et délicieusement épuisés, nous irons enfin boire un dernier café en bord de mer avant de regagner nos beaux appartements. Ce soir, le monde est un champ de ruines, un chaos sublime, et j'écouterai Mahler en me disant que ma vie est un extraordinaire spectacle de réussite et de perfection. Mais je sais que personne ne viendra, qu'au bout du compte, je n'irai nulle part. Je ne rêve pas. Ils sont tous internés en exil et mon siamois a bel et bien disparu. Ce n'est pas un canular. Mais à qui appartiennent tous ces objets? Cette ignoble poupée rousse, ces ustensiles rouillés, ce matelas minuscule? Pourquoi ne les ont-ils pas embarqués lorsqu'ils sont partis? Ils n'avaient pas eu le temps de fuir. Aucune des familles de ce quartier n'avait eu le temps de fuir. Mais je ne peux pas le certifier, comment le pourrais-je? C'est sans issue. Je le sais. Je remarque que les ombres se déplacent lentement, lentement au milieu des végétations et esquissent désormais des mouvements de plus en plus imprévisibles. Au bout de leur parcours sinueux et incohérent, elles forment une silhouette figée dans un débordement de douleur physique. Depuis mon fauteuil délabré, je vois une cavité privée de son globe oculaire. Une bouche ouverte et édentée. L'expression d'une panique viscérale. Quelque chose comme un prélude au dernier soupir. Peut-être. Oui, peut-être. Je me demande s'il ne s'agit pas de mon chat. Mais pourquoi s'agirait-il de mon chat? Dos à la fenêtre et face à mon mur jaune, j'observe le corps se dilater, se tordre comme une pâte à modeler. Plus de vertèbres. L'un après l'autre, ses membres se déboîtent et se détachent. Je ne distingue plus de bouche ouverte, plus d'yeux, à peine les débris d'un corps décomposé. Les ouvriers d'en bas, ces salauds d'immigrés, ne l'auraient-ils pas enlevé? Voire sauvagement aspergé d'alcool pour le brûler. La chose désormais informe s'éclipse peu à peu et disparaît même tout à fait, et je me dis, en me bouchant les oreilles, mâchoire puissamment serrée, La jambe droite, victime d'un hoquet irrépressible, à nouveau tremblante et déglinguée, que je n'ai pas toujours détesté le bruit. Je n'ai jamais vécu dans le calme, le silence, bien au contraire. Ma jambe, qui le supporterait? Qui supporterait le calme, le silence absolu? C'est ce bruit monstrueux et suffocant des chantiers, des marteaux-piqueurs, des camions et des pots d'échappement et des klaxons et de l'agitation quotidienne dans son ensemble qui ébranle mes nerfs. Les piétines rend ma tête malade, inhabitable. L'époque où nous étions rois, le bruit n'avait pas la même texture, ni le même raffinement. C'est la vulgarité du bruit d'aujourd'hui que je ne supporte pas, sa régularité, sa propension abjecte à envahir mon refuge, cette manière implacable qu'il a d'emplir chacun de ses recoins. Encore là? Personne n'est venu l'évacuer. De ma fenêtre, je le vois tenir sa tête entre ses genoux. Son chariot de légumes frais est renversé. En me grattant le menton, je l'entends pleurer. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Le flic en lunettes noires règle la circulation. Il feint d'ignorer ses lamentations. Se contente maintenant de le fixer index sur la bouche, lui dit ta gueule sale chien et t'avise surtout pas de bouger. Mais je n'ai plus de compassion, plus d'empathie pour personne. La fatigue, l'assèchement, plus de force. Comment, pourquoi lutter? Combien d'années de maisons de poupées me séparent de mes anciennes heures de gloire? J'ai l'impression de ne les avoir jamais vécues. Ailleurs que dans cette pièce, il n'y a plus de traces, pas la moindre preuve, et je ne possède plus d'appartement. Aucun chez moi. À mon âge. Les anciens propriétaires m'en ont délogé quelques heures après l'effondrement. Des salopards d'Allemands. Que pouvaient faire des Allemands dans cette ville? Venir de si loin s'installer dans le chaos de l'époque? Je me demande encore. Le jour où j'avais emménagé dans leur baraque, j'avais demandé « Qu'est-ce que vous foutez là, hein? Qu'est-ce que vous foutez dans notre ville ?» Ils avaient une fille adorable, on aurait dit Liz Taylor. Elle se cachait derrière les jambes de son père blond et moustachu. La mère portait le fils dans ses bras. Il était myope et sentait la merde. Chiait probablement dans sa culotte. Mais je n'en suis pas sûr. Avec mes amis, nous avions insisté. Que font des Allemands, des salopards d'Allemands dans cet appartement? Ils n'avaient jamais eu le temps de répondre. Je ne sais plus. Je ne sais plus si toute cette histoire est vraie ou même crédible et qui s'en soucie après tout. De mon passé, il m'est aujourd'hui impossible de vérifier le moindre épisode. Mes souvenirs, déjà si peu nombreux, sont de plus en plus nébuleux et fuyants. J'exagère. Il y a certes des choses dont je me souviens à peu près nettement. Un climat général. Deux ou trois rondes mémorables, quelques attributs de prestige, l'argent, les femmes, la camaraderie, un bruit, par exemple. Mais le détail, autrement dit l'essentiel, m'échappe. Ai-je vraiment rencontré ces Allemands dans ces conditions? Ce gamin répugnant sentant la merde? Combien de clients avions-nous placés dans ce cercueil en fer à ma droite? 10, 20? 1412? Je suis sur une piste cyclable au milieu d'une arène blanche et il n'y a pas de public. Ou plutôt aussi. Des vieux qui ne bougent pas. Ils sont parfaitement statiques et silencieux. On dirait du papier peint. Je n'entends que les sommations du speaker. Une voix grave qui articule tourne au ralenti. Ils me hurlent de continuer. Je porte le matricule 1412. L'éclairage de la salle est aveuglant et m'empêche de voir la piste sur laquelle je pédale en rond depuis des heures. Je n'ai pas le droit de m'arrêter. Je crois que quelque chose est lancé à mes trousses. Ou peut-être pas. Ce serait trop simple. La sueur inonde mes yeux, mouille mes lèvres et je pédale de plus en plus difficilement. Je ne sais pas pourquoi je pédale ni quand ma course prendra fin. De sa voix distordue, le speaker me somme, me hurle sans cesse. Le matricule 1412 n'a pas le droit de s'arrêter. Y a-t-il un matricule 1411 ou 1413 sur la piste? À bout de force, je n'arrive plus à maintenir ma tête pleine de fourmis sur mes épaules. Mes poumons me sortent en morceaux par la gorge, je suffoque. L'arène, les gradins, tout le décor autour de moi ne sont plus que des lignes flottantes. Des points erratiques qui se multiplient à l'infini. Mon champ de vision est à peu près égal à zéro. Bientôt je tomberai. Mais je n'ai pas le droit de m'arrêter. Il est 14h12, mes talons claquent sur le sol. Comme un marteau-piqueur, ma jambe droite tressaute 100 mètres. Elle s'arrache du reste de mes membres et s'ébroue désormais, aveugle, enragée, bestiale, dans toutes les directions. Un câble électrique en furie. Comment la rappeler à l'ordre? Lui dire « au pied ». Je ne peux plus rien pour elle. Il ne me reste plus qu'à l'observer, la toiser comme s'il s'agissait de la jambe de quelqu'un d'autre. Elle ne m'appartient plus. Hormis quelques souvenirs agonisants, rien ici ne m'appartient. Ni la pièce, ni les murs, rien. Mais j'ai du mal à m'en convaincre après tout ce temps. À l'époque, nous avions simplement occupé les lieux. Une ruine chichement meublée et livrée clé en main. C'était à l'aube, nous avions besoin d'une planque, un endroit où travailler peinard dans la discrétion. Au bout de quelques semaines, nous avions tout de même aménagé des voies de drainage entre les chambres, installé une chaise avec accoudoir au centre de la pièce, suspendu trois crochets au plafond, des bricoles, le minimum. J'ai déjà ruminé tout cela la semaine dernière, il y a 2 jours. Que s'était-il passé ce jour-là? Aucun de nous n'avait prédit l'effondrement, la fin de toutes nos existences. Une bataille de rien du tout, des escarmouches de petits pédés. En à peine quelques heures, l'affaire était pliée et mes amis anéantis aux électrochocs. Aujourd'hui, ils sont légumes sans rémission. Seuls quelques-uns ont survécu en s'exilant. Ce jour-là, je m'en souviens, il y avait une gigantesque procession de voitures et de drapeaux blancs. Des confettis tombaient du ciel, depuis leur balcon, les gens applaudissaient le passage des vainqueurs. Ce jour-là, ces salopards d'Allemands sont venus récupérer leur appartement, mon chez-moi. Quelques militaires exaltés ont démoli la porte. Ils m'ont enfoncé du papier aluminium dans la bouche pour que je mâche. M'ont hurlé, plaque ta face contre le sol, petite merde. Ils m'ont ensuite traîné par les cheveux. De la salle de bain à l'entrée, j'ai pris des coups dans l'abdomen, sur le thorax. Je saignais des oreilles. Pendant qu'un militaire m'écrasait la nuque, le père blond et moustachu, ce salopard d'Allemand, baladait son flingue sur ma tempe droite. Mon sang coulait le long du calibre. M'a soufflé. Le temps de payer est arrivé, tu vas trinquer, enculé. Mais ce jour-là, je n'ai pas trinqué. Rien payé. Comment s'est-elle fracassée, notre chaise à accoudoir? Pourquoi ne reste-t-il que 2 crochets sur 3? Et d'où viennent maintenant tous ces bourdonnements dans mon oreille?
Je ne suis pas mort. Je suis simplement étendu dans une vieille caisse en bois et j'ai encore toutes mes dents. Elles sont dans ma main. Je les vois. Des grains de sable humide se faufilent entre les planches du couvercle. En les avalant, un goût infect se propage le long de mon œsophage. Je ne pense pas me situer trop en dessous de l'écorce. À peine une 30aine de centimètres. et un filet de lumière me travaille la cornée. Mais pour l'instant, je ne décèle sous terre aucune présence hostile. Je ne me sens pas spécialement à l'étroit non plus. Par intermittence, j'entends même le chant des oiseaux. Il ne fait pas particulièrement chaud, il fait tiède, et je ne ressens aucune fatigue plomber mes muscles. Si je parvenais à mobiliser tous mes membres éparpillés, je pense que je serais en mesure de soulever, voire de fracasser le couvercle de ma caisse. Une fois dehors, je pourrais alors respirer au grand air et regagner ma position verticale.
Comment s'était-il échappé le PD anglais que nous avions emmené ici? Ou s'agissait-il plutôt d'un PD italien? À l'aube, quelques minutes avant d'aller nous coucher, tandis que je me lavais les avant-bras en sifflotant ma lèvre, mes camarades l'avaient pourtant bien enfermé dans ce cercueil en fer à ma droite. Il me semble que ce PD anglais, Philippe ou Roger, était le dernier client étranger qu'on nous avait confié. Il était professeur de musique dans une école privée, jouait probablement du violon, se montrait en toutes circonstances très arrogant, d'une nature affreusement volubile. Il n'aimait pas l'adagio très lent de Mahler, l'estimait complaisant et surfait, d'une sentimentalité grandiloquente, trop immédiate, germanique. Nous avions mis un terme à sa sexualité. Il en avait émis un râle avant de pleurer, mais je n'en suis pas certain. Encore un dont le visage m'échappe. Dans mon esprit, ils se confondent tellement que j'ai l'impression d'en créer de toutes pièces. Des têtes qui n'ont jamais existé, qui ne correspondent à aucune réalité. Ou peut-être si. Où est le marchand de légumes? Et le flic en lunettes noires? Ailleurs. Maintenant que le ciel s'est dégagé et que je me retrouve dans mon fauteuil, je vois le bout de la mer. Une bande épaisse et brumeuse où l'horizon, de moins en moins perceptible, presque blanc, de plus en plus aspiré. À quoi me sert la description de la mer, ses couleurs, ses mouvements? Elle ne me sert à rien, c'est toujours la même. Je suis fatigué de mes journées, fatigué de n'être que l'ombre dégradée de celui que j'ai été. Mais maintenant que le ciel s'est dégagé, le soleil à 15h30 n'a plus d'obstacle. C'est ce qui compte. Il règne absolument. Prend toute la place, n'épargne aucune pénombre. À travers la fenêtre, j'essaie de le fixer, mais ne tient pas plus de 10 secondes. Je vois en taches jaunes. Il coule massivement et il se déverse comme des laves dans ma pièce. Partout en taches jaunes. Sous ses coups de boutoir, ma nuque accablée me brûle et toute ma tête fléchit et j'entends à peine l'adagio très lent de Mahler. Il rend l'âme, tourne au ralenti, sans résistance vomit une à une ses dernières notes et se laisse entièrement vider par le grondement, l'hystérie d'en bas. Plus de musique. Seul le désastre de la reconstruction déferle dans mes oreilles. Il y a au bas mot une dizaine de marteaux-piqueurs, d'ouvriers, de klaxons qui hurlent et s'ébranlent de concert dans ma tête. Dans ma jambe droite. Ma mâchoire. Mes dents en claquent sans arrêt, j'ai peur qu'elles se fracassent dans ma bouche. Peur qu'elles se calent dans ma gorge et que j'en étouffe le visage bleu et sans soupir. Il n'y a plus d'ombre. Les végétations face à moi stagnent, ne frétillent même pas. En réalité, je ne les vois plus, nulle part. part. Les rayons de lumière se répandent sur toutes les surfaces, tous les objets autour de mon fauteuil. Même en plissant les yeux, je ne reconnais aucun élément de mon décor habituel. Pas même la poupée rousse sur le sol. Il n'y a plus d'ombre et je suis enfermé dans un espace éblouissant et privé de ces objets. Un cube blanc. Pur. Sans relief. Le soleil, l'extinction de Mahler et le carnage des chantiers ont tout emporté. Plus de digues. Désormais dans ma pièce, dans ma propre pièce, rien ne m'est familier. Ils ont réussi à me déposséder de mes restes, à rompre mes habitudes. Désormais dans cette ville, je suis cerné au milieu des barricades et condamné à disparaître. Je ne tiendrai pas une minute de plus. C'est sans issue. Désormais, dans cette ville et pour moi, tout est mort et sans avenir. Je le sais. Dehors, il fait nuit. Les immeubles sont impeccables, sous emballage. Je ne sais pas comment j'ai traversé ces dernières heures. Depuis le temps, j'ai renoncé. Je ne cherche plus à comprendre, à me poser bêtement la question de savoir. Hormis quelques rares automobilistes pressés, il n'y a plus personne dans les rues. Dans mon refuge, il fait nuit aussi. Je ne sais pas comment je vais descendre les escaliers de l'immeuble. Je pense que je n'ai plus de jambe droite. En tout cas, il ne faut plus que je compte sur elle pour me déplacer. Mais cela dit, je connais le chemin. Nuit ou pas, j'ai l'habitude. En me dirigeant vers la porte de sortie, je récupère mes cigarettes et mon poste et évite de heurter les objets de ma pièce. C'est tout ce qui me reste. Je ne dois pas en modifier la disposition. Ce serait trop bête après tout ce temps. Je ne sais pas combien de minutes m'ont été nécessaires pour venir à bout des escaliers. Peut-être 10 ou 15. Va pour 15. C'est joli, 15. Dehors, tout est calme, dépeuplé, en béton. Seuls quelques chats sortent de l'obscurité pour aussitôt y retourner. Je ne vois pas mon ombre. La rumeur du centre-ville est de plus en plus faible. Elle a même complètement disparu. Je ne sais pas où est le chariot du marchand de légumes. Boitant parmi les nouveaux immeubles, quelque part au milieu du quartier d'affaires, à quelques mètres de la prochaine place des Martyrs, je me dis que je ne dois pas faire le poids. Mais je considère que je n'ai plus de jambe droite. C'est maintenant acquis. Je ne demande qu'à me souvenir ou à partir dans le sud. J'aurais dû garder quelques preuves, des archives, pourquoi pas un journal, quelque chose de l'époque où j'étais roi. Au lieu de quoi j'erre toutes les nuits depuis des mois, l'ombre absente au pied des immeubles.
Terrain vague, adapté du roman d'Oliver Roé. Réalisation et création sonore, Olivier Tison. Coordination artistique, Carole Lesson. Interprétation, Charles Compagnie. Une production de La Roulotte. Avec le soutien de la DRDJS du Nord-Pas-de-Calais, le CRAV, Métal UHAUT, La Virgule, La Verrière, la Maison Folie d'Oisem et Radio Campus. Remerciements particuliers à Oliver Roé, René Lavergne, les éditions Alia et Patrice Théry.